Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 7h.
Le prince Philippe est un homme que j'ai connu toute ma vie. C'est un homme formidable et il a tellement fait pour ce pays que je suis honoré d'être ici aujourd'hui.
Les Britanniques, depuis hier, rendent hommage au prince Philippe. L'époux de la reine Elisabeth s'est éteint. C'est lui qui aura modernisé et médiatisé cette famille royale, tant appréciée malgré les polémiques.
En France, les vacances scolaires ont débuté hier soir dans tout le pays. Vacances confinées, attention, dans un rayon de 10 km.
Le vaccin de Johnson & Johnson qui doit arriver en Europe présente-t-il des risques pour la santé? L'agence européenne ouvre une enquête.
Et puis en rugby, 5 clubs français sont encore en lice ce week-end pour les quarts de finale de Coupe d'Europe. Une telle densité, ça n'est jamais arrivé.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Dans tout le Royaume-Uni, des coups de canon seront tirés à la mi-journée à Londres, Belfast et même depuis les navires de la Royal Navy. Les Britanniques rendent hommage au prince Philippe.
Lui qui s'est éteint hier et dont on retiendra la discrétion, toujours deux pas derrière son épouse, la reine Elisabeth. On retiendra également que c'est lui qui, dans l'ombre, a dépoussiéré et modernisé le palais de Buckingham. Nicolas Feldman.
Investiture royale. La reine devient souveraine.
Si aujourd'hui, on peut encore voir ou entendre les images du couronnement de la reine ce 2 juin 1953, on le doit au prince Philippe. Winston Churchill ne veut pas de cette diffusion en direct, mais grâce au duc d'Édimbourg, la reine entre dans les foyers des Anglais et du monde entier. En 1969, c'est encore lui qui ouvre les portes de Windsor aux caméras de télévision. 40 millions de Britanniques découvrent alors dans un documentaire la reine et sa famille en train de décorer leur sapin de Noël. Toujours dans l'ombre, le duc d'Édimbourg incite aussi Elisabeth II à prendre ses premiers bains de foule. Une des réussites du prince Philippe, avoir dépoussiéré Buckingham Palace, c'était l'une des missions que lui avait confiée la reine Elisabeth II.
Nicolas Feldman, les obsèques du prince Philippe devraient avoir lieu au château de Windsor en très petit comité en raison de la pandémie.
Et peu ont eu l'occasion de côtoyer la famille royale et notamment le prince Philippe. C'est le cas pourtant de Stéphane Bern, il sera avec nous à 7h40. L'actualité en France, Marguerite, ce sont les vacances scolaires qui ont débuté hier soir.
Calendrier chamboulé en raison du reconfinement. Toute la France est donc en vacances aujourd'hui, mais interdit de voyager. Alors que faire? Eh bien, Diane Berger vous a posé la question.
Je devais partir chez ma mère en Espagne. C'est complètement mort. J'ai de la famille en France aussi, mais on est censé être confinés, donc on n'est pas censé partir. Donc pour le coup, on reste à Paris.
C'est vos enfants?
C'est mes petits-enfants. Leurs parents travaillent chez eux, c'est pas facile. Et donc la grand-mère est mise à contribution.
C'est quoi le programme pour les occuper pendant 2 semaines en région parisienne?
Les parcs quand il fait beau, un peu de cuisine quand il fait pas beau, le moins possible de télé.
Et Mathéo, toi tu vas faire quoi pour les vacances?
De la Switch. Minecraft, Lego Harry Potter, Mario Kart. Avec mon père.
Contrairement à ce que lui peut croire, il n'y aura pas que de la Switch, hein, il y aura aussi du foot, histoire qu'il se dépense un petit peu. Puis à la maison, c'est plutôt des jeux genre du Uno, du Monopoly ou regarder des documentaires.
Ils vont aller un peu chez leurs grands-parents, près de Lyon. On va faire des attestations pour garde d'enfants pour pouvoir les déposer du coup les 2 prochaines semaines.
Quelques Parisiens.
Ça, c'est les vœux pieux, hein, ça ne sera pas que de la Switch, mais bon.
Conséquence de ces déplacements interdits, en tout cas la SNCF est obligée de s'adapter. Vous avez peut-être reçu d'ailleurs des messages d'annulation ces derniers jours. L'offre de transport en effet sera réduite dès lundi. On voit tous les détails avec Aurélien Fleureau.
Avec la limitation des déplacements interrégionaux, la SNCF a observé une chute des réservations de 70% pour les trajets longue distance en avril et mai par rapport à 2019. Par exemple, 300 000 personnes sont attendues dans les TGV et intercités ce week-end. Ce serait 1 million habituellement. Sur les lignes à grande vitesse, l'offre sera donc réduite dès lundi avec 4 TGV sur 10 sur les axes sud-est, atlantique, est, ainsi que pour les Ouigo, ce sera en moyenne 3 sur 10 sur l'axe nord. Et du côté des intercités, 50% du trafic normal sera assuré. Pour ces trains avec réservation, la compagnie précise que l'offre pourra être renforcée les week-ends et durant les vacances scolaires selon les axes. Mais avec ces annulations, eh bien parfois les familles doivent revoir leur organisation, notamment pour les trajets prévus pour emmener les enfants chez leurs grands-parents, mais aussi pour ceux qui ont des déplacements professionnels dans les jours qui viennent. Concernant les TER, là, la SNCF travaille avec chaque région pour s'adapter en fonction des demandes. En moyenne, 80% des trains circulent en semaine avec une fréquentation d'environ 50%. Le week-end, en revanche, certains trains se retrouvent très vite remplis, comme cela a été le cas pour Pâques.
Précision d'Aurélien Fleureau. Il y a ceux qui prennent le train, puis les autres qui tentent leur chance en voiture au risque de se faire verbaliser. Les contrôles sont renforcés. Reportage sur l'autoroute A6 près de Lyon avec notre correspondant Jean-Luc Boujon.
Une dizaine de gendarmes sont postés juste après la barrière de péage. Une Citroën C4 s'approche avec à son bord 4
personnes des Parisiens qui évidemment sont à beaucoup plus que 10 km de chez eux.
Désolé, on n'a pas fait l'attestation en fait sur Stop Covid comme on fait un long trajet. Pour qu'on la fasse maintenant
La 61, vous allez être labellisée pour la circulation en France malgré le confinement sans l'attestation.
135 euros pour cette absence d'attestation, ce qui énerve passablement Tristan, le père de famille.
Nous allons dans les Cévennes pour faire garder les enfants par leur grand-mère. On a oublié de faire 3 clics sur une attestation et on va être visiblement verbalisé. C'est la belle administration à la française. Les gouvernements qui n'ont pas fait leur boulot, qui n'ont pas commandé de vaccins, qui n'ont pas maîtrisé la pandémie, et tout retombe sur le dos des citoyens. Visiblement, ils ne savent rien faire d'autre qu'emmerder le monde.
Le sous-préfet de Villefranche, Jean-Jacques Boyer, assume lui cette sévérité.
Et les personnes qui en profitent pour partir font courir un risque à nos concitoyens, puisque les mesures renforcées, elles ont pour objectif d'éviter au maximum les contaminations, donc il n'y a pas de départ en vacances.
Mais cette situation reste tout de même une exception. Hier soir, les automobilistes n'étaient pas très nombreux au péage de Villefranche. La preuve sans doute qu'une majorité de Français a renoncé au grand voyage. Villefranche-sur-Saône, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et pendant ce temps-là, sur le plan sanitaire, Marguerite, plus de 41 000 nouveaux cas ont été détectés dans les dernières 24 heures.
Et dans la lutte contre l'épidémie, cette nouvelle alerte ces derniers jours, le vaccin Johnson & Johnson, qui doit arriver en Europe la semaine prochaine, eh bien ce vaccin serait-il lui aussi responsable de rares cas de thrombose? Anne Le Gall, l'Agence européenne du médicament, a décidé de lancer une enquête.
Oui, l'Agence européenne du médicament cherche à en savoir plus sur ces caillots sanguins qui peuvent faire penser aux thromboses survenues de façon exceptionnelle après des injections d'AstraZeneca. Le point commun de ces deux vaccins est qu'ils utilisent ce qu'on appelle un vecteur viral. C'est un virus rendu inoffensif qui permet de transporter des fragments de l'ADN du SARS-CoV-2 à l'intérieur de l'organisme. Un point commun donc, mais pour l'instant, difficile de tirer des conclusions, explique le professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondor de Créteil.
Les vecteurs développés par AstraZeneca et Janssen sont du même type, ce sont des vecteurs adénoviraux, donc il est normal de s'interroger. Pour autant, ce sont quand même des vecteurs différents, ce n'est pas le même type d'adénovirus, donc ça ne veut pas dire que ces deux vecteurs vont donner le même type de problème.
À ce stade donc, pas d'inquiétude, poursuit ce spécialiste. 5 millions de personnes ont déjà reçu ce vaccin de Johnson & Johnson dans le monde. Et l'on parle ici seulement de 4 cas, dont un décès signalé. Le risque est donc de moins de 1 cas pour 1 million d'injections. Et cela correspond pour l'instant au nombre de cas de thrombose en population générale en l'absence de vaccination.
Merci pour ces précisions. Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Et d'ailleurs, l'agence américaine, elle, a assuré cette nuit qu'il n'y avait pas de lien entre ce vaccin et les caillots sanguins.
7h07, c'est un épisode météo historique qui a détruit des centaines de milliers d'hectares de cultures ces derniers jours.
Plusieurs nuits de gel ont réduit à néant des mois de travail. Aucune région ou presque n'est épargnée. Dans la vallée du Rhône, plus de 80% des vignes sont touchées. Les vignerons et les agriculteurs craignent le pire car la plupart ne sont pas assurés. Laura Taouchanoff.
Tout ce qu'on a fait depuis le mois de septembre de l'année dernière, en 8 heures de temps, tout a été balayé.
Les 35 hectares de vergers de Nicolas partis en fumée. Pour la première fois de sa carrière, cet arboriculteur fruitier près de Valence perd toute sa récolte à cause du gel.
Ça représente 450 tonnes de fruits, donc au bas mot, un minimum de chiffre d'affaires entre 450 et 500 000 euros de perte.
Comme beaucoup d'autres agriculteurs, Nicolas n'est pas assuré, un pari qu'il est obligé de prendre pour faire tourner son exploitation.
C'est des assurances qui coûtent très cher et il n'y en a pas beaucoup. Ça va entre 25 et 30 000 euros. Déjà que nos marges sont déjà faibles, c'est compliqué de s'assurer, quoi. L'agriculture est un pari. Si on n'est pas aidé par l'État, je ne sais pas où c'est qu'on ira, quoi.
Et l'arboriculteur attend toujours son indemnisation de l'État pour le gel de l'année dernière. Voilà pourquoi les agriculteurs doivent impérativement se protéger davantage, explique Christiane Lambert, la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
Il faut améliorer les dispositifs d'assurance, surtout avec la multiplication des événements climatiques. Les agriculteurs, par contre, qui sont assurés, vont être payés beaucoup plus vite, en 2 mois, qui va venir compenser son compte d'exploitation.
Selon la FNSEA, seuls 30% des céréaliers sont assurés contre 25% des viticulteurs.
Les précisions de Laura Taouchanoff et les conséquences de ces geliers sur l'agriculture. On va y revenir. Ça sera notre grand dossier dans le journal de 8h. Et notez déjà que ce soir à 19h15, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, sera l'invité de Wendy Bouchard.
Plus de 2 mois après la disparition d'Aurélie Vaquier, son compagnon est mis en examen et placé en détention provisoire. Les gendarmes ont retrouvé cette semaine le corps de la jeune femme sous une dalle de béton au domicile du couple. Son compagnon est donc aujourd'hui poursuivi, même s'il continue de nier les faits, Gladys Laffitte.
Oui, devant les enquêteurs, durant tout le temps de sa garde à vue, il a nié toute implication dans le meurtre d'Aurélie Vaquier. Selon cet homme de 39 ans, elle aurait été tuée et dissimulée à cet endroit par une autre personne. C'est récemment, en novembre dernier, qu'il s'est installé à Bédarieux avec Aurélie Vaquier, sa nouvelle compagne, explique Raphaël Ballan, procureur de la République de Béziers.
Il est marié avec une autre femme, mais une procédure de divorce était engagée à Bourg-en-Bresse. Ils ont ensemble deux enfants. Trois condamnations sont inscrites sur son casier pour des infractions routières et pour des vols. Donc aucune condamnation pour violence.
L'enquête va maintenant se poursuivre, notamment pour comprendre les causes de la mort d'Aurélie Vaquier. À ce stade, il n'y a aucune certitude sur ce qui aurait provoqué son décès. On sait simplement qu'aucune lésion visible ne peut l'expliquer de manière claire. Les médecins légistes estiment que sa mort remonte à la période de sa disparition, c'est-à-dire fin janvier, il y a plus de 2 mois maintenant.
Gladys Laffitte, hier, la cour d'assises spéciale a condamné Reda Cricket à 24 ans de prison. Il était accusé d'avoir projeté un attentat juste avant l'Euro 2016 en France.
On termine avec le rugby, Marguerite, et cet exploit des clubs français.
Oui, ils sont encore 5 en lice pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe qui se joue ce week-end. Et c'est tout simplement du jamais vu depuis que cette compétition existe. La performance est immense, Axel May.
Seule l'Angleterre avait réussi cette performance, placer 5 clubs en quart de finale. Ce week-end, 2 matchs seront franco-français avec d'abord Bordeaux-Bègles, novice à ce niveau de la compétition, qui va recevoir le Racing 92. Christophe Furios, le manager général de l'UBB, en vient presque à regretter cette confrontation.
C'est vrai que le fait de jouer un quart de finale de Coupe d'Europe contre une équipe française, ça enlève un peu le parfum de la Coupe d'Europe, pour moi. Mais bon, on a un arbitre anglais, donc ça va. Mais là, aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est pas l'histoire du club, hein. Ce qui m'anime, c'est de battre le Racing.
L'autre quart de finale franco-français opposera Clermont à l'Ogre toulousain, deux équipes habituées aux joutes européennes. Franck Azéma, l'entraîneur auvergnat.
On a aussi un vécu de phase finale qui te met un peu dans l'excitation depuis le début de la semaine, qui te met un peu du peps, des étincelles dans les yeux.
Une certitude, avec ces deux quarts de finale fratricides, il y aura à minima 2 clubs français en demi. Et peut-être 3 si La Rochelle a la bonne idée de battre les Anglais de Sale. Le rugby tricolore se rapprocherait alors un peu plus de son objectif, ramener la Coupe d'Europe à la maison, ce qu'il n'a plus réussi depuis que Toulon a lâché sa triple couronne il y a 5 ans.
Axel May, et puis enfin un dernier mot de football pour vous dire que Lille, qui est leader du classement de la Ligue 1, a battu Metz hier soir 2-0.
Merci Marguerite, à tout à l'heure pour le grand journal de 8h et nous irons devant le château de Windsor où est mort le prince Philippe.